se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à demain, l'iPhone 12 64Go reconditionné est à seulement 299€.
À ce prix-là, ça me fera un super cadeau de fête des mères.
En donnant une seconde vie à un produit reconditionné en France par les experts PRS.
Elle est pas belle, la vie ?
Auchan, avec plaisir. 50€ de remise immédiate sur l'iPhone 12 64Go reconditionné grade B, soit 299€ au lieu de 349. Valeur du DAS sur Auchan.fr. Valable dans vos hypermarchés Auchan participants et sur Auchan.fr. Kit main libre recommandé.
Vous écoutez
RMC. RMC Estelle Midi.
13h05 sur RMC, on va poursuivre Estelle Midi avec le souhait du jour et c'est celui du gouvernement de mettre fin au HLM à vie. Selon le ministre du Logement, Guillaume Kasbarian, plus de 8% des locataires actuels de logements sociaux ne seraient plus éligibles car leur revenu dépasse le plafond autorisé. 11 millions de Français vivent aujourd'hui en HLM. Paul, quelles sont les règles actuellement pour bénéficier d'un HLM ?
Alors les conditions sont nombreuses. Tendez bien l'oreille. Les offices tiennent compte pour chaque candidat du patrimoine, du niveau de ressources, des conditions de logement actuelles, de l'éloignement des lieux de travail, de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs et de l'activité professionnelle des membres du ménage lorsqu'il s'agit d'assistants maternels ou d'assistants familiaux. Les personnes, les profils privilégiés sont les personnes en situation de handicap, les mal logés ou les gens sans logement, les chômeurs de retour sur le marché du travail ou encore les femmes victimes de violences conjugales. Et là, Estelle, vous me demandez, oui, est-ce qu'il existe des conditions qui favorisent le non-renouvellement des baux ?
Mais c'est ce que j'allais dire.
Eh bien, je vous réponds, le surloyer à partir de 150%, mais uniquement si vous l'avez pendant 2 ans de suite. À partir de ce moment-là, vous avez 18 mois pour déménager. Si on fait les comptes, ça fait donc 3 ans et demi pour trouver une solution de relogement. Mais à l'inverse, beaucoup d'éléments vous permettent de ne pas être expulsable de votre HLM. Si vous avez au-delà de 65 ans, vous êtes assuré de ne pas être renvoyé, et cela même si vous occupez un logement trop grand. Si par exemple vous avez 3 ou 4 pièces parce que vos enfants ont vécu avec vous dans ce HLM pendant 20 ans...
Tu restes dans cet appart.
Voilà, c'est gardez incroyable. Le même appartement. C'est aussi le cas si vous souffrez d'un handicap ou que vous n'êtes plus autonome. Enfin, les habitants des HLM dans les quartiers dits prioritaires, eux aussi ne risquent pas de se faire renvoyer de leur logement, et ce, quelle que soit leur situation financière.
Alors, faut-il mettre fin au HLM à vie, Thierry Moreau ?
Bah oui, 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 bien sûr, parce que 8% sur un parc de personnes qui sont en logement sociaux, ça fait 880 000 personnes qui sont donc dans des logements. Le principe du logement social, c'est quoi ? C'est qu'à un moment donné, vous êtes en difficulté, soit parce que vous êtes primo-accédant, vous ne pouvez pas aller sur le marché privé. Donc l'État, la solidarité nationale, vous aide et vous permet d'accéder à un logement, à un toit, parce que vous avez une situation précaire. Cette situation précaire, elle peut durer. Il y a des gens qui seront toute leur vie en logement social parce qu'ils n'ont pas de revenus, qui sont au RSA, etc. Là, il n'y a pas de débat. Quant à ceux pour lesquels, c'est un peu comme quand on apprend à faire du vélo. Quand on sait faire du vélo, on enlève les petits trous.
Oui.
Eh ben, le logement social, ce sont les petits trous qui vous permettent de rentrer dans la société, d'acquérir un logement et d'avoir un toit. Une fois que votre salaire a augmenté et que vous pouvez aller sur le marché privé, vous allez sur le marché privé. Et pourquoi le surloyer est une mauvaise solution ? Parce que le surloyer n'empêchera pas la pénurie. Aujourd'hui, nous avons une pénurie de logements sociaux. Il faut en construire. Alors,
il y a 2 600 000 Français en attente.
Tout à fait. Cette solution que propose le ministre ne résoudra pas le problème du manque de logements sociaux. Donc, de toute façon, même s'il fait ça, il faudra en plus continuer à réinvestir massivement sur le logement social. Et ça coûte des impôts. Et ça, on ne le dit pas assez. Mais très clairement, le surloyer ne suffit pas. Donc oui, il faut quitter un logement social quand on n'y a plus droit.
Yael Mellul, est-ce qu'il faut mettre en place des surloyers, c'est-à-dire effectivement payer plus cher quand votre revenu augmente, ou tout simplement réviser en fait chaque année, voilà, le parc des HLM en disant bah non, telle personne vous êtes au-dessus du plafond, terminé pour vous les HLM, quoi, parce qu'effectivement s'il n'y a pas de contrôle, bah tout le monde reste. Hein.
Le principe, c'est que le principe, tu l'as rappelé Thierry, c'est-à-dire du HLM, c'est lorsqu'on n'a pas suffisamment de revenus pour avoir un logement normal. À partir du moment où on ne remplit plus ces conditions-là, on part.
Oui.
Il ne doit même pas y avoir de discussion, en fait. Il n'y a pas de surloyer.
Il y a beaucoup de gens qui restent. Hein.
Évidemment, mais c'est ça le problème. Il faut les faire partir. Les surloyers, je suis d'accord encore avec Thierry, ce n'est pas une solution. Il faut que les loyers des HLM restent des loyers de HLM. Oui. C'est pour ça qu'ils sont des HLM par définition. Principe. À partir du moment où on
après, tu dis qu'il y aura peut-être aussi une mixité sociale, tu vois, s'il y a des surloyers.
Mais non, je veux dire, le HLM est fait pour les personnes en situation précaire, est fait pour les personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir un appartement normal. C'est fait pour, c'est l'objet même de ces HLM. On va pas modifier l'objet, hein. Et aujourd'hui, tu l'as rappelé Estelle, il y a 2 600 000 personnes en attente. Oui. Et on sait à quel point les délais sont extrêmement longs. Ce sont des années aujourd'hui pour avoir un HLM. Donc oui, mille fois oui, il faut faire sortir les gens qui ne sont plus en situation de précarité, qui dépassent les plafonds, pour laisser la place à ceux qui en ont véritablement besoin. Et par la même occasion, autant faire le ménage aussi dans la classe politique. Il y a peut-être à droite, à gauche, quelques femmes ou hommes politiques qui n'ont pas droit à être dans ces, dans ces logements.
Oui, je pense qu'ils se méfient maintenant.
Ils se méfient, absolument. Bah oui.
Pour les retraités, on fait quoi, Fred Hermel? C'est vrai qu'une personne retraitée qui vit dans un T5, alors que finalement, elle vit toute seule parce que les enfants sont partis, qu'est-ce qu'on fait?
On le reloge, hein. Voilà, enfin, je suis désolé.
Mais une personne qui a vécu toute sa vie dans cet appartement.
Oui, mais enfin, elle a bénéficié de la solidarité nationale pendant toute sa vie. Donc, c'est normal qu'après, une famille qui en a plus besoin occupe ce T5. Enfin, je veux dire.
Oui, mais encore faut-il qu'il y ait un T1 qui soit dispo.
Oui, bah oui, bien sûr, si c'est dispo. Et après, moi, je suis d'accord avec mes amis et collègues, mais faut bien regarder les délais parce que parfois, la situation financière peut s'améliorer. Sur un an, et puis après retomber sous les critères l'année d'après.
Bah, tu referas une demande.
Oui, mais enfin, une demande, mais après, il faut refaire avec eux.
Tu fais des contrôles tous les 10 ans?
Non, là, Paul parlait d'un délai à peu près 3 ans, 3 ans et demi. Je pense que quand ce délai est respecté, oui, parce que sur 3 ans, tu vois vraiment si ta situation s'est améliorée.
C'est un peu chaud.
Pas sur un an.
C'est 2 ans pour voir si la situation est stable, et ensuite tu as 1 an et demi pour trouver une solution.
Voilà.
Si t'es fonctionnaire, par exemple, une fois que t'as atteint un plafond, tu sais que tu seras toujours au-dessus.
C'est pas automatique. Au bout d'un an, si c'est revu tous les ans, je veux dire, oh là là, t'as dépassé de 10 euros de salaire par mois, t'es plus dans les critères. Là aussi, il y a l'effet de seuil. Faut faire attention. Donc,
bien sûr.
Il y aura plein de garde-fous. L'idée est très bonne, mais il y aura plein de garde-fous pour que ce ne soit pas automatique et pas trop rapide. Donc, pour que la nouvelle situation financière des locataires soit vraiment établie et stable.
Paul, des messages sur la PRMC.
Oui, ce message d'Annabelle qui nous dit: je suis en charge du service gestion locative chez un bailleur social et je suis totalement d'accord pour que ces locataires dépassant les plafonds ne soient plus bénéficiaires d'un HLM. Bien souvent, ces locataires possèdent même un bien immobilier, donc ça c'est son retour d'expérience. Il y a tellement de personnes qui attendent un logement social qu'il faudrait changer les choses.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux avoir un HLM en résidence principale et avoir une résidence secondaire à 300 km si tu en as hérité, etc. Donc, il y a des situations qui peuvent être parfois, qui peuvent sembler injustes. Mais enfin, en même temps, si tu travailles à Paris et que tu as une maison, une résidence secondaire à Montpellier, tu vas pas te déménager pour aller trouver un boulot à Montpellier.
Tu as un patrimoine qui augmente ta situation sociale.
Ça se trouve c'est un petit patrimoine, tu vois. En fait, ça t'oblige à vendre ton.
Oui, bah tout dépend. Oui. Bah après, mais si c'est un patrimoine, c'est un patrimoine. Je suis désolé. Tu hérites d'une maison qui coûte, je sais pas, 150 000 euros. Bah, ton patrimoine augmente de 150 000 euros. Donc, il faut voir par rapport à tes revenus. Enfin, c'est normal.
Mais un patrimoine, c'est pas des revenus, c'est pas pareil. Si t'as hérité d'une maison de 150 000 euros, ça ne fera pas vivre toute ta vie.
Ton patrimoine augmente de 150 000 euros. Automatiquement, on doit regarder les critères par rapport aux autres, quoi. Un héritage est un changement de situation. Donc, est-ce que ta situation correspond à celle d'il y a 2 ans quand tu n'avais pas ce patrimoine? Moi, je trouve ça normal quand on bénéficie de la solidarité nationale de répondre à certains critères. Et surtout, tu l'as dit, 2 800 000 qui attendent. Et puis, quand tu sais que les personnes âgées qui étaient dans un T5, mais même pour elles, c'est mieux parce que quand t'es âgée, t'es une femme toute seule dans un T5.
Mais parfois, il n'y a pas de T1.
Dans un T2, mais même pour elles, c'est pas très.
Mais oui,
il y a tellement peu.
En fait, il y a tellement peu d'appartes libres qu'encore une fois, si tu veux virer quelqu'un d'un T5 pour le mettre dans un T1 et que t'as pas de T1, tu peux rien faire. Tu vas pas virer la personne retraitée.
Mais même pour la personne, pour une personne âgée, être dans un T5, c'est pas très agréable non plus pour elle.
Non mais ça j'entends. Notre invité sur ce débat, c'est Michel Fréchet, il est président de la CGL, la Confédération Générale du Logement. Bonjour Michel.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. On se demande s'il faut mettre fin au HLM à vie. C'est vrai que quand on regarde un petit peu comme ça, on se dit que c'est injuste que des gens bénéficient d'un HLM à vie alors que peut-être ils pourraient en sortir.
Ah, écoutez, je trouve ce débat un peu kafkaïen. Je vous écoutais attentivement, là, dans vos échanges. N'oubliez pas une chose, quand même, c'est que globalement, et les statistiques sont là, elles sont données par l'Union sociale pour l'habitat, qui est l'organisme, enfin, qui est un regroupement de tous les organismes HLM. Ils ne cessent de tirer la sonnette d'alarme. Année après année, les gens qui habitent en HLM s'appauvrissent. J'insiste, s'appauvrissent. C'est-à-dire que chaque année,
là, il y a pas de
débat. Des gens, et chaque année, il arrive des gens plus pauvres. Donc, on est en train de débattre sur un sujet, mais qui concerne une infime minorité des locataires qui vivent en HLM.
Bah, 8% quand même.
Oui, enfin 8%, ça veut dire...
Bah 8% de 10 millions.
Ça fait 880 000 personnes.
Oui, enfin, il faut voir aussi, il faut regarder le détail des 8%. Hein. Mais je reprends votre chiffre. 8%, ça veut dire que 92% de la population qui vit en HLM n'est pas concernée par ça.
Hein. Oui, bien sûr, oui. Le verre à moitié vide, à moitié plein, ok.
C'est quelque chose d'important à savoir. Mmh. Ensuite, parmi les 8%, je crois que le débat que vous venez d'avoir est très révélateur. Parmi les 8%, il y a des gens, effectivement, qui possède un bien, mais un bien qui se trouve souvent au milieu de la Lozère ou je ne sais quoi, alors qu'ils habitent la région parisienne.
Ben oui.
Donc, que voulez-vous qu'ils fassent, ces gens?
Frère Hermel disait ils ont qu'à vendre leur bien.
Bah oui, mais une fois qu'ils l'auront vendu, est-ce que ça changera fondamentalement leur situation? Éventuellement, ils auront un appel d'air pour quelques années, mais après ces années, ce sera terminé. Et ils devront rechercher de nouveau un HLM et ils devront attendre des années avant d'en avoir un. Donc, tout cela est ridicule. La meilleure façon de résoudre le problème du logement que l'on a aujourd'hui en France, eh bien, c'est de construire beaucoup plus de façon à ce que chacun y trouve sa place. Vous parliez également des personnes qui ont des personnes âgées qui ont un grand logement. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui ont un grand logement, qui veulent en changer, qui voudront avoir un plus petit.
Et c'est ce que je dis, bien sûr. Il n'y a pas de plus petit.
Il n'y en a pas.
Ben oui.
Il n'y en a pas. Ils sont occupés. Alors on fait quoi de ces personnes? On les met à la porte?
On place
non.
Et on leur propose d'aller vivre sous les ponts?
Mais non.
Vous avez raison. Non, mais bien sûr, là, on a un vrai problème de logements sociaux neufs, en fait. Il n'y a pas de construction. Donc évidemment, on se retrouve devant quelque chose de compliqué. On a vu ces dernières années pas mal d'exemples en fait de politiques qui bénéficiaient indûment d'HLM. Est-ce que ça existe encore ou plus du tout?
Écoutez, là je ne pourrais pas vous répondre, mais par contre ce que je peux vous dire, c'est que certains cas de politiques que l'on accusait de vivre en HLM, en fait ils ne vivaient pas dans un HLM, ils vivaient dans un logement aidé qui n'avait pas l'estampille HLM. Et souvent, il y a confusion entre les deux. Je pense en particulier en région parisienne à la RIVP qui gère des logements aidés. Donc, ils ont été aidés au moment de la construction par les finances de l'État, mais ce ne sont pas des HLM parce qu'ils n'ont pas été aidés pour la construction à hauteur de l'aide que l'on donne aux HLM. Arrêtons de quelques cas qui sont peuvent être considérés comme scandaleux, je suis d'accord avec vous. Mais c'est quelques cas, on les compte sur les doigts d'une main. Or, le monde HLM, c'est plusieurs millions de personnes. N'oublions jamais ça.
11 millions. Restez avec nous, bien sûr, Michel Fréchier. On a Maryse en ligne qui nous appelle de Mérignac et qui est retraitée. Bonjour Maryse.
Oui, bonjour.
Et vous vouliez intervenir sur ce débat pour nous donner un exemple concret.
Oui, alors bon, plusieurs. Déjà, merci de m'accueillir. Ça fait bien longtemps que je souhaitais intervenir, surtout sur ce sujet-là.
Ah ben,
donc voilà, moi je travaillais tout simplement dans une compagnie d'assurance et j'ai eu à assurer des gens qui étaient locataires dans le centre de Mérignac. Donc Mérignac, c'est une commune bordelaise où on est plutôt pas mal. Hein.
Oui, c'est bien.
Voilà, et qui à côté assuraient une résidence secondaire en tant que propriétaire. Donc vous voyez, ça fait partie des choses qui sont quand même un peu compliquées à admettre. Alors, j'ai écouté un petit le débat, et puis bon, j'ai l'impression d'avoir plein d'idées, mais bon, je vais peut-être sortir en vrac, j'en sais rien. Monsieur Fréchet disait que... c'est votre intervenant.
Oui, tout à fait.
Il disait que effectivement, les gens, ils avaient peut-être eu un héritage, ou tout d'un coup, ils avaient possibilité d'en sortir, mais qu'après, il fallait les remettre. Oui, parce qu'ils doivent sortir, ils sortent, parce qu'à un moment donné, pour moi, le logement social, c'est un logement, d'abord, et je crois que c'est inscrit dans la loi, c'est un droit fondamental. On est bien d'accord?
Tout à fait.
Ce droit fondamental, à mon sens, il est vraiment complètement bafoué. notamment par les logements sociaux. On a besoin de logements sociaux, on doit pouvoir y aller.
Mais il n'y en a plus, il n'y en a pas assez,
Il n'y en a plus. Pourquoi il n'y en a plus?
Parce qu'on ne les construit pas.
Parce que justement, on n'a peut-être pas fait ce qu'il faut. Quand on a quelqu'un qui est là depuis des années et puis qui... d'abord, pour moi, ça devrait être un bail, hein, 3, 6, 9, et puis on n'en parle plus, on arrête ce système-là qui est vraiment scandaleux.
Oui, mais alors comment on fait? Oui, mais alors attendez, imaginez, Marie, vous avez des personnes qui malheureusement gagnent très très mal leur vie et qui travaillent et qui aimeraient gagner plus, mais quand vous avez quelqu'un qui, en région parisienne, par exemple, gagne moins que le SMIC, je pense à une caissière qui est à temps partiel et qui gagne 800 euros par mois, comment voulez-vous qu'elle se loge dans le parc privé? Alors,
mais attendez, elle a le droit. Attendez.
Ah, d'accord.
C'est pas parce qu'on remet un 369 qu'on doit faire partir les gens. Attention.
Ce que vous voulez dire, c'est au bout de 3 ans, en fait, on revoit la situation.
On vérifie la situation.
Ouais, je suis d'accord.
On vérifie la situation des gens. S'ils ont droit, bien sûr, on est là pour les aider. Enfin, encore une fois, pour moi, c'est un droit fondamental et on va pas enlever une caissière qui malheureusement ne gagnait pas très bien sa vie pour aller y loger, je sais pas, quelqu'un qui n'aurait pas besoin. Enfin bon, non, mais alors, bien sûr, si elle doit y rester, elle va y rester.
Alors, je vais laisser Michel Fréchet quand même vous répondre. Michel Fréchet, il y a aujourd'hui 11 millions de personnes qui vivent dans l'HLM, on se doute bien que ne doit pas y avoir des contrôles non plus toutes les semaines, et ça doit être compliqué de contrôler 11 millions de personnes, mais est-ce qu'il faudrait justement accentuer les contrôles pour pouvoir enlever de ces HLM des personnes qui ne devraient plus y être?
Mais écoutez, je suis étonné, mais vraiment époustouflé d'entendre ça, parce que ce système de contrôle, il existe déjà dans la loi.
Est-ce qu'ils sont faits, les contrôles?
Écoutez, vous venez de le dire vous-même, 11 millions de personnes qui habitent dans HLM.
Mmh. Vous imaginez
combien de personnes il faudrait recruiter pour vérifier tout ça?
Ils ne sont pas faits, donc il n'y a pas de contrôle.
C'est complètement possible, ça se fait, les organismes HLM le font, ils vérifient régulièrement le niveau de revenu des personnes. D'ailleurs, tous les ans, les gens qui vivent en HLM doivent envoyer leur certificat d'impôt de façon à ce que l'organisme puisse vérifier s'ils sont assujettis au surloyer ou pas. Donc, par contre, les bailleurs reçoivent tous les ans un état précis de la situation de leurs locataires. Ceci dit, une fois qu'on a sur la table, je prends un exemple un peu poussé, une fois qu'on a sur la table 11 millions de dossiers, qu'est-ce qu'on en fait? Et il faut recruter des centaines et des centaines de personnes pour...
Bah oui, mais attendez, excusez-moi, Michel Fréchet, moi ça ne me gênerait pas qu'il y ait des personnes recrutées pour faire des contrôles. Mais ce qui me choque le plus, c'est qu'il y ait des personnes qui sont HLM et qui ne devraient pas être là. Ça, c'est choquant. En revanche, qu'on recrute plein de personnes pour faire valoir la loi, je ne vois pas en quoi c'est gênant, en fait. Enfin, c'est quand même bizarre de créer quelque chose et de ne pas pouvoir le contrôler. Enfin, ça me paraît aberrant, surtout quand c'est quelque chose c'est quelque chose qui est quand même payé par le contribuable. C'est un système d'État, donc ça me paraît étrange.
Oui, alors, je vous arrête là. Hein. Vous dites payé par le contribuable. Je vous rappelle que le monde du logement en France rapporte beaucoup plus.
Mais tant mieux.
L'État beaucoup plus qu'il ne lui coûte.
Mais tant mieux, et c'est formidable. Mais
donc si on doit taper quelque part, c'est certainement pas là. Ensuite, on revient toujours sur le sempiternel débat des personnes qui sont en HLM qui ne devraient pas y être. Je vous rappelle que la majorité de la population française est éligible à un logement social. Actuellement, je crois que ça dépasse les 60%. Donc, ne poussons pas le bouchon trop loin et ne cherchons pas. Ça existe. Des abus, il y en a. Ils sont ultra minoritaires et on ferait mieux de faire en sorte de construire plus de logements plutôt que de demander à un certain nombre de personnes de
participer. Mais on est d'accord.
Ça n'est pas ça qui résoudra la crise du logement.
Restez avec nous. Merci beaucoup, Maryse, en tout cas, de nous avoir donné votre point de vue. On va prendre Sébastien, qui nous appelle de Cergy, en région parisienne, qui est administrateur et qui bénéficie d'un logement HLM. Bonjour, Sébastien.
Oui, bonjour. Donc, oui, je bénéficie d'un logement HLM.
D'accord.
J'ai, juste un peu avant Covid, essayé d'acheter et de faire construire.
Mmh.
Donc, il a fallu que j'essaye... De m'éloigner de Paris parce que au niveau moyen j'avais pas ce qu'il fallait pour pouvoir acheter en région parisienne.
Mmh.
Et en plus je suis diabétique.
D'accord.
Donc faut savoir que pour
les assurances
quand on voilà on a obligation de remplir un questionnaire de santé dès que ça dépasse 200 000 euros.
Donc vous avez une surprime.
Voilà, il y a une surprime et les banques sont beaucoup plus réticentes.
Tout à fait. Donc vous n'avez pas eu votre prêt, en fait, Sébastien.
Voilà, j'ai pas eu mon prêt. Je suis toujours dans mon HLM. Je paye un surloyer, environ 100 euros de surloyer.
Alors attendez, vous vivez dans un appartement de combien de mètres carrés, Sébastien ?
50 mètres carrés.
D'accord. Et vous payez combien de loyer ?
550 euros.
Oui, donc c'est quand même pas cher hein, pour 50 mètres carrés. Oui. Et vous êtes quand même en région parisienne ?
Voilà, je suis en région parisienne, je suis dans le 95 et je travaille sur le quartier de la Défense.
Et Sébastien, vous payez 100 euros de surloyer, mais quel est votre salaire aujourd'hui ? Parce que si vous payez un surloyer, c'est que vous êtes au-dessus du plafond.
Ouais, je touche 1800 euros net, plus une prime tous les trois mois de 1500 euros.
Ah oui, donc si on divise par 3, ça fait 2300, enfin voilà, ça fait 500 par mois, donc ça fait 2300 euros, donc vous êtes effectivement au-dessus de au-dessus des plafonds, mais vous vous êtes jamais fait contrôler, Sébastien ?
Bah, je déclare mes loyers à mon bailleur. À chaque année, je transmets ma fiche d'impôt, je transmets mes revenus, je transmets tout et c'est d'ailleurs comme ça qu'il calcule le montant de mon surloyer.
Mais Sébastien, vous vous dites pas quand même quelque part, bah voilà, je gagne 2300 euros, c'est plus que beaucoup de personnes qui attendent un logement social et je vais essayer de trouver dans le parc privé.
Je regarde régulièrement. Le problème, c'est que pour avoir un appartement, parce que régulièrement, j'ai ma mère qui habite dans le sud, qui monte me voir et qui dort chez moi et tout. Et donc j'ai qu'un petit F2, hein, j'ai juste une chambre et c'est tout. Et pour pouvoir trouver quelque chose similaire à ce que j'ai là, on est tout de suite sur du 1000 euros.
C'est ça, deux fois plus.
Ouais, voilà.
Les cautions et les
d'où l'intérêt de faire du cas par cas.
Bien sûr. Bien sûr.
La situation médicale de notre auditeur explique quand même beaucoup de choses, quoi.
Bien sûr. Et Sébastien, s'il peut pas avoir de prêt parce qu'il a des surprimes, évidemment, que il reste dans son HLM. Mais c'est vrai que les prix, je reviens vers vous, Michel Fréchet, c'est vrai que voilà, Sébastien, il paierait deux fois plus dans le parc privé, mais donc il paye un surloyer. Mais à un moment, on se dit, même si on comprend bien sûr la situation de Sébastien, est-ce que il faut faire payer des surloyers en HLM? Parce que surloyer, ça veut dire que vous dépassez les plafonds, donc dans ce cas, les plafonds ne servent à rien.
Si, ils servent à quelque chose. Ils servent au moment de l'entrée dans le monde HLM.
D'accord.
Ceux qui sont dessus des plafonds, ils sont refusés, les commissions d'attribution, ils gagnent de trop. Après, ils ont une ascension sociale. Mais le cas de Sébastien est intéressant parce que,
quoi
qu'il a dit tout ce qu'il fallait dire, c'est-à-dire que s'il veut acheter quelque chose dans le privé, alors ça suppose qu'il obtienne des prêts, etc., si c'est compliqué, mais s'il veut acheter quelque chose dans le privé, ou même s'il veut partir de son logement social pour louer dans le privé, mais il va devoir donner deux fois plus d'argent pour payer son loyer et ses charges, et donc ça va se traduire pour lui par une baisse de son niveau de vie. Et donc, il y a aussi ce risque-là, quand des gens qui dépassent le plafond pour obtenir un logement social, si on veut les faire partir, ça veut dire aussi clairement qu'on les condamne à voir leur niveau de vie baisser.
Bien sûr, et c'est pas souhaitable.
Ils sont entrés dans un HLM, ils avaient les moyens qui correspondaient aux gens qui devaient rentrer en HLM, ils ont connu une petite ascension sociale, et du même coup, cette ascension sociale, on l'efface.
Ouais, elle serait pénalisée, bien sûr.
Dans le privé, et donc tu auras moins d'argent.
Je suis d'accord et merci pour toutes ces précisions parce que on y voit un petit peu plus clair dans ce débat. Merci beaucoup Michel Fréchet d'avoir été notre invité et puis merci à Sébastien également d'avoir été avec nous. On termine avec un message, Paul.
Oui, celui de Patricia, le témoignage de Patricia qui dit: j'ai une petite retraite, je suis dans un logement social aujourd'hui mais j'ai attendu 8 ans avant d'en avoir un.
C'est beaucoup.
Dans l'immeuble, il y a un élu qui vit, il a des terrains, une résidence secondaire, il prend la place d'une famille. Elle rajoute, depuis 4 ans que je vis dans ce logement social, je n'ai eu à remplir qu'une seule enquête sur mes revenus. Et puis Michel Fréchet nous disait que pour contrôler 11 millions de logements, c'était compliqué. Johan propose quelque chose en nous disant, vous avez ici un très bon exemple de l'intérêt de l'intelligence artificielle pour des contrôles à partir du moment où on a les données. C'est un jeu d'enfant d'automatiser ces traitements, sachant que le gouvernement veut tout simplifier et mettre l'intelligence artificielle en avant dans les services publics. Pourquoi pas?
Alors, on va voir le résultat de notre sondage. Est-ce qu'il faut mettre fin au logement social à vie?
Il n'y a pas photo selon vous, puisque vous répondez oui pour 81% de ceux qui ont voté sur nos réseaux sociaux.